Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Comme chaque samedi, 16h-18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Tout à l'heure, la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou. Notre French Tech Tour qui s'accélère à l'international, ce sera tout à l'heure. Et puis notre World Tour, nous irons du côté de l'Inde s'intéresser au mobile qui explose là-bas. Mais auparavant, notre passion selon Saint-Net. Alors justement, on parle de technologie, de mobile, de connecté. Eh bien là, c'est tout l'inverse. Vous savez que quand on rentre dans ce studio, on éteint nos téléphones pour ne pas être dérangé par les vibrations des téléphones et par les ondes des téléphones. Oui. Eh bien là, on va parler de la déconnexion. Une déconnexion obligatoire, Lila ?
Va-t-on vers une déconnexion obligatoire ? Notre besoin de déconnexion est-il impossible à rassasier ? Pour détourner un peu Stieg Dagerman. On va se poser la question avec Rémi Oudguiri. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Rémi Oudguiri, vous êtes auteur, vous avez écrit l'ouvrage Déconnectez-vous, comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée aux éditions Arléa. On vous avait d'ailleurs reçu à l'occasion de la sortie de ce premier opus. Et vous venez de sortir Petit éloge de la fuite hors du monde, toujours aux éditions Arléa. Alors, depuis 2013, est-ce que cette définition de la déconnexion, est-ce qu'elle a évolué? Qu'est-ce que ça veut dire être déconnecté aujourd'hui?
Alors je pense qu'effectivement ça a évolué. Alors il y a toujours le besoin de se déconnecter parce que depuis 2013, eh bien les gens sont de plus en plus connectés, se connectent de plus en plus. Mais il y a un nouveau phénomène qui est arrivé, c'est qu'en 2013, le sujet principal c'était une question d'équilibre et de bien-être. C'est-à-dire que les gens étaient tellement sollicités, étaient tellement usés de leur téléphone qu'ils étaient un petit peu exténués, fatigués, stressés. Aujourd'hui, il y a toujours ce phénomène-là, mais il y a un autre phénomène qui arrive et qui monte de plus en plus, c'est que les gens se sentent surveillés. C'est-à-dire qu'ils utilisent de plus en plus la technologie et ils sentent qu'une partie de leur vie privée potentiellement leur échappe. Depuis, il y a eu le droit à l'oubli qui est un sujet qui monte. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus seulement une question de bien-être, c'est aussi une question de contrôle de sa vie privée.
En plus, avec les objets connectés qui arrivent, qui n'étaient pas existants en 2013.
Alors, c'est la grande question de demain et je pense que c'est un des freins potentiels des objets connectés parce que tout le monde parle des objets connectés. Moi, je travaille chez Sociovision, on fait des enquêtes sur ce sujet-là, et on voit bien qu'il y a cette crainte qui monte.
Où vont mes données personnelles,
en fait? Où vont mes données personnelles, exactement, et qu'est-ce qu'on va en faire, et pour me donner quoi? Donc, il y a un vrai sujet d'inquiétude.
Et est-ce que ça, c'est un mouvement majoritaire, ou est-ce que c'est un courant minoritaire? Ça concerne quelle proportion des gens qui vont éprouver un besoin de recul face à l'hyper-connexion?
Alors nous, on évalue à peu près à un tiers de la population aujourd'hui les gens qui se sentent réellement, qui sentent ce besoin de se déconnecter. Ils le sentent souvent, ils l'expriment. Ça a un petit peu augmenté depuis quelques années, mais c'est pas un mouvement massif. Pourquoi? Parce que la technologie se banalise, les usages commencent à entrer dans les mœurs, et je pense que pour une certaine partie de la population, c'est assez finalement, le côté positif l'emporte sur le côté négatif. Néanmoins, pour une autre partie de la population, et nous on le mesure là encore, enfin moi j'ai des chiffres récents sur le sujet, ils nous disent qu'ils sont de plus en plus dépassés, qu'ils n'arrivent plus à décrocher, que ça pèse sur... En fait, le grand phénomène aussi qui s'est accentué depuis 2013, c'est la confusion entre vie privée et vie professionnelle. Beaucoup de gens maintenant ne se rendent même plus compte que quand ils sont au travail, ils font du privé. Quand ils sont dans la vie privée, ils travaillent. Et ça engendre des problèmes de relations familiales, de relations avec les proches. Et puis simplement, ce sentiment que là, on passe à côté de sa vie.
En 2013, vous parliez déjà de burn-out numérique. On n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. D'aucuns déclarent qu'en fait le burn-out numérique n'est qu'une déclinaison de la dépression liée au travail qu'on connaissait auparavant. Quelle est votre position par rapport à ça? Vous pensez que le burn-out numérique, c'est un nouveau phénomène?
Alors, il faudrait être médecin pour pouvoir porter un diagnostic. En revanche, en tant que sociologue, moi, j'observe les choses. Je pense qu'il y a, de fait, un nouvel élément qui entre, en tout cas, dans la fatigue que certains peuvent éprouver, dans leur stress, voire même dans ces phénomènes de burn-out. Et clairement, la technologie joue un rôle important. Parce que, pour certains, la technologie est l'outil principal. Les gens sont du matin jusqu'au soir rivés soit à leur téléphone, soit à leur ordinateur. Et de fait, ça joue beaucoup, et là les enquêtes le montrent, dans la fatigue.
Vous évoquiez pareil il y a 2 ans, le cas de Volkswagen et également le Crédit Suisse qui poussait déjà à l'époque leurs employés, qui forçaient leurs employés à se déconnecter entre eux, il me semble, 18h et 8h.
Et 8h le matin.
Est-ce que cette pratique s'est accentuée? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'entreprise? Et est-ce que c'est vraiment efficace?
Alors, la déconnexion.
Au-delà de la communication, évidemment.
Oui. Voilà. Je pense que c'était la déconnexion forcée, je n'y crois pas, et elle n'a pas vraiment pris. Parce que c'est impossible, et surtout les populations concernées ont besoin de liberté. C'est-à-dire que pour certains, justement, pouvoir travailler après 18 heures, c'est une façon de jongler avec d'autres obligations, des obligations familiales. En revanche, ce qu'on a beaucoup vu ces 2 dernières années, c'est des entreprises qui appellent à des journées sans email ou des demi-journées sans email. Il y a eu Price Minister qui a été beaucoup médiatisé, il y en a d'autres. Et ça, c'est vrai que ça revient régulièrement, mais vous voyez, c'est ponctuel, c'est plus des opérations de sensibilisation. C'est l'idée qu'à un moment donné, reprenons des habitudes qui sont simplement se parler entre voisins de bureau, aller à la cantine ou à la cafétéria pour échanger, faire des réunions physiques. Donc je pense que beaucoup de gens sont sensibilisés à ça, mais je ne crois pas qu'il y ait ni un besoin ni une demande pour une déconnexion forcée.
Mais il y a d'ailleurs le rapport Metlin qui interroge la déconnexion, notamment le droit à la déconnexion. Ouais. Est-ce qu'on va pas vers un besoin de déconnexion obligatoire?
Le rapport en particulier est intéressant parce qu'il ne veut pas faire de loi. Il ne veut pas qu'il y ait une obligation générale, un peu aveugle, pour régler ses problèmes. Simplement, ce rapport appelle un droit à la déconnexion qui serait négocié, alors, branche par branche. Moi, j'ai presque envie de dire que ça se passe à l'intérieur de chaque entreprise, en réalité. Certaines sont concernées, certaines le sont moins. Il y a des contextes différents, il y a des contraintes différentes. Moi, je pense qu'il y a clairement un besoin de se déconnecter. Mon livre, c'était vraiment un éloge de la déconnexion, mais je pense qu'il faut être très pragmatique. On est à une époque où la réactivité est importante, ça fait partie des compétences, la créativité, et simplement ce qu'on observe, et ce que déjà en 2013 je montrais, c'est que pour être plus efficace, pour être plus créatif, il faut avoir des moments de repos, de pause, etc. Simplement, ils peuvent pas ces mouvements-là ne peuvent pas être obligatoires, rendus obligatoires. Moi, ma conviction, c'est que les managers ont un rôle très important. Ils doivent incarner un certain état d'esprit, c'est-à-dire les mails après une certaine heure ou tôt le matin ou tard le soir, c'est à eux de montrer l'exemple. Et c'est en montrant l'exemple qu'ils parviendront à sensibiliser les gens à ça. Je crois beaucoup plus à la vertu par l'exemple que par des lois un peu directives qui sont plus tellement dans le sens de l'histoire des entreprises d'aujourd'hui.
Alors pareil, il y a ces fameuses cures de digital detox qui pullulent un peu aux États-Unis où vous pouvez
prendre. On devrait y aller, je pense, Lila. Non.
Je pense.
Je pense qu'on est des bons candidats.
Ce sont beaucoup. Il y a un effet de mode. Il y a un filon commercial qui est exploité. Moi, en revanche, ce qui est vrai, c'est ce qu'on se disait il y a quelques jours, c'est qu'il y a une vraie tendance à la déconnexion, mais qui prend plein de formes différentes. Ça va des séances de yoga aux séances de méditation. Ça va à la randonnée, à la marche. La marche n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on voit monter. Il suffit de regarder le nombre de livres qui existent sur le sujet. Les philosophes prennent position sur la marche. Et c'est quoi la marche? C'est le besoin de retrouver un rythme naturel, de retrouver un équilibre avec soi-même, avec son corps. C'est une forme de déconnexion et en général, ça se fait dans un espace en dehors du monde. Et ça, c'est une vraie tendance et je pense que ça va continuer. Mais les détox digitales dans des hôtels de luxe ou voilà, qui coûtent très cher, ça peut être intéressant pour une population, une micro-population aisée, oui. Mais je pense pas que ça soit la
pour Mark Zuckerberg, par exemple.
Exactement.
Éventuellement.
Voilà. Exactement.
Mais est-ce qu'on peut arriver, à votre avis, une espèce d'intoxication de la connexion à un point où finalement les gens rejetteraient la connexion?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un rejet. Alors il y a plein d'exemples, même il y a eu un livre de Guy Birenbaum cette année où il raconte son aventure de déconnexion. Il y a eu beaucoup de, en France ou dans d'autres pays, de cas similaires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne rejette pas, mais on revient. D'abord, on stoppe à un moment donné parce qu'on s'effondre littéralement. Donc on a un moment de pause qui est un moment de cure. Mais ensuite, on revient à la technologie, mais avec cette conscience du point aveugle au-delà duquel...
Ouais,
On est moins esclave. Donc, moi, je pense pas... Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans connexion. Rappelez-vous, il y a quelques années, Hillary Clinton revendiquait un droit à la déconnexion en disant qu'aujourd'hui, si on n'a pas... à la connexion, pardon. Si on n'est pas connecté, on n'existe pas en tant que citoyen, en tant que... Donc, moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un retour à l'âge de pierre. Ça serait d'ailleurs assez ridicule. En revanche, je pense qu'il y a une conscience qui n'est peut-être pas encore totalement partagée.
C'est-à-dire qu'après l'excès, il y aura la modération?
Oui, je pense qu'on entre un peu là-dedans. Sauf que, comme j'ai dit, dans la société actuelle, il y a une partie de la population qui s'y est faite, qui facilement, qui voit son intérêt, mais il y a une autre partie qui est un petit peu laissée à côté du chemin. Et je pense que parce que les syndicats aussi sont actifs sur cette question de la déconnexion, ce qu'ils ont en ligne de mire, c'est ces personnes fragilisées. Et donc, c'est un handicap de plus que d'être à la merci de la connexion. Et donc, c'est pour ça qu'ils revendiquent ce droit à protéger. En fait, c'est une protection.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de gueule de bois par rapport à notre frénésie d'existence en ligne il y a quelques années? Je pense notamment cette semaine, je me suis retrouvée à envoyer un mail à copain d'avant pour dire bonjour, pourriez-vous supprimer mon profil? Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché pour ça? Pour effacer ou pour corriger un peu notre personal branding frénétique d'il y a quelques années.
Il y a clairement un marché, ça va augmenter. On le voit nous dans les préoccupations des gens de plus en plus. Alors il y en a un tiers aujourd'hui de la population en France se plaint du fait que elle n'arrive pas à effacer certaines données qu'elles ont mises soit sur les réseaux sociaux, etc. C'est un vrai sujet. Alors c'est un sujet de droit. Il y a une législation, mais c'est probablement aussi un sujet de marché, parce que le personal branding dont vous parlez, c'est la mise en scène de soi sur le net. C'est aussi comment gérer au mieux, comment effacer, comment mettre en valeur. On n'est qu'au début de ça en réalité. Hein. On le voit bien parce que dans les réseaux sociaux professionnels, il y a eu un seuil qui a été franchi cette année. Il y a de plus, enfin, la vertu et l'utilité de ces réseaux sociaux est de plus en plus reconnue.
Eh bien, merci.
Merci beaucoup. Mais
merci à vous.
Rémi Houdguéry. Je rappelle, vous avez écrit Déconnectez-vous, comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée aux éditions Arléa.
Merci beaucoup. Et on revient dans un instant, suite de cet atelier avec notre World Tour et notre French Tech Tour dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
À suivre. Dans cet atelier numérique sur BFM Business, la rédaction de 01net.com. Tout à l'heure, on jettera un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine que vous avez pu lire sur 01net. On retrouvera le crash test d'Antoine. Mais auparavant, c'est notre World Tour. On va faire un état des lieux du mobile en Inde. Et c'est avec Aurore Géraud et son invité, Aurore.
Pour le World Tour de cette semaine, nous allons nous intéresser à l'Inde et au développement du mobile, un petit état des lieux de l'écosystème. Et avec nous pour en parler, Sylvain Billard, qui est directeur du bureau de Bombay, chef de pôle Asie du Sud, Tech et Service Business France, Inde. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Où on en est du développement du mobile en Inde?
On a à peu près aujourd'hui 1 milliard d'abonnements. On considère que 900 millions de ces abonnements mobiles sont actifs, ce qui fait de l'Inde de très loin le deuxième marché au monde en volume après la Chine. Et pour ce qui est d'Internet, le constat est globalement le même, avec une pénétration qui est relativement faible à ce jour, de l'ordre de 25-27%, avec en termes de chiffres 350 millions d'internautes. Des internautes qui accèdent majoritairement en fait à Internet via leur mobile. Le parc de smartphones se développe très très fortement et donc tout ce qui tourne autour effectivement des services et solutions mobiles et internet est en forte progression.
Alors on était plutôt habitué à tout ce qui est paiement, information, peut-être santé, au niveau des applications qu'on peut avoir sur mobile dans les pays émergents ou en voie de développement. Est-ce qu'on voit également se développer, selon vous, des schémas identiques à ceux des pays développés ?
Alors très clairement, on a un écosystème technologique indien qui est en très forte progression, que ce soit en termes de nombre d'acteurs, donc de start-up qui se créent sur ces segments-là, autant que des investissements, que ce soit en capital risque ou en private equity auprès de ces acteurs. Fin 2014, on était à 3100 start-up en Inde. Les estimations tablent sur plus de 10 000 à l'horizon 2020, donc une très très forte progression. Et en termes d'investissement, pour donner quelques chiffres, on estime que les start-up indiennes, cette année, lèveront de l'ordre de 5 milliards de dollars de financement. Alors après, en termes de domaine d'application, bien évidemment, tout ce qui tourne autour des services apportés sur Internet et sur mobile est en forte progression. Alors on n'est pas sur un marché encore extrêmement mature, mais les technologies se développent de manière très très rapide. Donc il y a le e-commerce, bien sûr, qui représente à peu près aujourd'hui une dizaine de milliards de dollars, donc ce qui est relativement faible par rapport à un certain nombre de marchés, mais avec la progression la plus forte au niveau mondial. Tout ce qui est M-banking, M-payment, là pour le coup, l'Inde est extrêmement innovante en termes technologiques, mais aussi surtout de business model, notamment autour de tout ce qui va toucher à l'inclusion financière, c'est-à-dire la capacité à amener des moyens de paiement non-cash en zone rurale. Hein. Aujourd'hui, on a encore à peu près 250 millions d'Indiens qui ne sont non-bancarisés. Le chiffre était du double il y a un an et demi à peu près. Puis, plus généralement, tout ce qui est marketing digital, santé. Hein, on a des startups extrêmement innovantes sur référencement de docteurs, avec des systèmes de télémédecine extrêmement développés pour permettre l'accès aux soins des Indiens présents en zone rurale.
Et qu'en est-il des initiatives publiques ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, le développement du secteur a beaucoup reposé en fait sur des investissements privés, hein, puisque si on reprend aujourd'hui les principaux acteurs des télécommunications mobiles et Internet, pour l'essentiel, ce sont des acteurs privés. Voilà, alors bien évidemment les acteurs privés ont contribué au développement majeur des télécommunications et des applications en Inde. Ceci étant, reste pour le gouvernement l'objectif d'apporter ces services en zone rurale. Donc là, il y a un certain nombre effectivement de mesures qui ont été mises en œuvre avec un divers programmes hein, qui se complètent. Donc il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés en Inde. On peut parler du Make in India, la volonté de développer des industries manufacturières en Inde. Pour ce qui touche purement aux technologies, j'en vois deux. Premièrement, le Digital India, avec là l'objectif de mettre en œuvre. Donc Digital India, c'est un programme à hauteur de 20 milliards de dollars hein, sur quelques années, avec l'objectif de mettre en œuvre un réseau de fibre optique au national, l'objectif de connecter en haut débit 250 000 villages en Inde, il y a à peu près 600 000 villages en Inde, l'objectif derrière d'apporter toute une série d'applications et de plateformes aux Indiens, puisqu'aujourd'hui effectivement l'Inde urbaine, à peu près un tiers de la population est urbaine aujourd'hui en Inde, est parfaitement utilisatrice des nouvelles technologies, hein, des réseaux sociaux, du e-commerce, etc. L'objectif, c'est dorénavant d'emmener ces services-là en Inde rurale, sachant que ce qui fait défaut aussi dans ces zones rurales, c'est typiquement les infrastructures, donc infrastructures de télécommunication, mais aussi infrastructures de transport, ce qui rend effectivement nécessaire de pouvoir apporter des services par voie digitale sur ces zones. Donc le Digital India, c'est aussi l'objectif de favoriser les investissements étrangers en Inde dans les domaines technologiques, avec un accent fort sur l'électronique typiquement, hein, puisque l'Inde est une puissance majeure au niveau mondial en termes d'IT, en termes de software, de services informatiques, mais les moins aujourd'hui sur l'électronique. Donc un certain nombre de programmes sont mis en œuvre pour attirer des investissements étrangers sur ces segments-là et limiter un petit peu le déficit commercial et technologique que peut avoir l'Inde aujourd'hui sur le domaine de l'électronique.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et après le World Tour, Aurore place à notre French Tech Tour et on va parler de la French Tech qui accélère à l'international avec votre invité.
À l'occasion des rencontres internationales de la French Tech 2015, 2015. Je suis aujourd'hui avec Éric Morand, chef du département tech et services innovants de Business France. Éric, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous ouvriez cet événement par une table ronde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les programmes de Business France actuellement pour aider les startups à se diriger vers l'international?
D'abord, juste rappeler, c'est vrai que cette première table ronde était intitulée à dessein la French Tech accélère à l'international, parce que voilà, on voit depuis le début de l'année que cette French Tech suscite beaucoup d'attention, d'abord de la part des investisseurs, puisque les nos startups multiplient les levées de fonds. Il y a pas une journée qui passe sans que un de nos représentants annonce une levée de fonds, et ce capital qu'il lève, il sert souvent à leur développement à l'international. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, d'essentiel. S'agissant de Business France, avec nos partenaires, donc on a développé un programme vraiment dédié aux startups en trois volets. D'abord un volet qu'on a nommé Ignition, qui consiste surtout à sélectionner avec des spécialistes, des experts, des entrepreneurs, VC, des startups qu'on accompagne sur les gros salons à l'international de start-up, donc je pense au CES début 2016, au Web Summit qui aura lieu là dans deux semaines, à d'autres événements comme Slush en Finlande ou SXSW à Austin. L'idée derrière ces sélections, c'est d'amener les stars de la French Tech, entre guillemets, et de les mettre en avant, de créer le buzz autour d'elles, et on est certain que en créant le buzz autour de ces pépites, finalement, on crée le buzz aussi à l'international autour de la France et de la French Tech en particulier. Le second volet, c'est pour des entreprises un petit peu plus matures à fort potentiel, souvent les entreprises du Pass French Tech, qui ont fait, je crois, l'objet d'une précédente de vos émissions, qui est un programme vraiment qui a deux sélections d'entreprises. Il y en a aujourd'hui un peu moins de 60. Et ces entreprises, on les accompagne tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est BPI France, INPI, COFAS, les investisseurs, les pôles de compétitivité et Business France. Donc, on leur offre un fast track vers nos différents produits, et s'agissant de Business France, vers le développement à l'international, avec des interlocuteurs dédiés, des consultants, on peut dire, en développement international, qui vont les aider au quotidien pour booster leur développement à l'international. Enfin, le troisième étage de notre fusée d'accompagnement des startups, c'est ce qu'on appelle, nous, le programme Focus, qui permet à des entrepreneurs, là, en l'occurrence, encore plus matures, qui ont levé des fonds, qui ont les moyens de leurs ambitions en termes de RH également, de se focusser sur des marchés essentiels pour eux, en particulier aux États-Unis, via un programme qui s'appelle UBIO, co-développé avec BPI France, mais aussi dernièrement en Chine, avec un nouveau programme intitulé Acceleratech. Le point commun de ces programmes, c'est une sélection forte d'entreprises qui ont fait de ces marchés, comme je disais, une priorité, qui vont y consacrer beaucoup de temps et d'énergie et de moyens pour y réussir, puisque c'est à chaque fois des programmes d'immersion entre 1 et 3 mois, donc très consommateurs de temps, mais l'effet de levier derrière est important, et le but, c'est que ces entreprises réussissent et grandissent en s'implantant durablement sur les marchés que j'ai pu citer.
Quels sont les obstacles encore qu'on peut rencontrer? Est-ce que c'est plus du préjugé?
Je pense que dans la tech, on a aujourd'hui la chance d'avoir quand même, surtout dans la jeune génération, des entrepreneurs qui pensent tout de suite global, hein, qui ne se voient pas réussir autrement que dans le monde et qui pensent bien au-delà de nos frontières dès le début. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont très focussées que sur leur techno au départ, qui ont des idées géniales, qui sont très innovantes, très créatifs, mais au-delà de cela, qui bien souvent n'ont pas forcément le bon commercial, le bon plan marketing stratégique pour vraiment se développer avec succès à l'international. Donc ça, c'est pour moi, c'est une barrière assez importante. Il y a le fait qu'il faut aussi y aller de manière structurée, sans attaquer 15 marchés en même temps quand on est une équipe de 3 personnes. Ça paraît idiot de le dire, mais on voit trop souvent cela arriver. Et voilà, je pense que nous, comme d'autres, hein, mais on est présents pour les aider à prioriser leurs actions et leur permettre de se focusser sur un marché et d'y réussir. Donc, et ensuite, adapter sa proposition de valeur au marché visé. On ne vend pas de la même façon, on ne vend pas le même produit en Russie, au Brésil, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne. Donc là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Qui sont les concurrents, à quelle problématique mon produit répond et comment j'adapte du coup mon offre de valeur aux besoins des consommateurs, des clients du pays que je vise.
Et d'un point de vue visibilité, est-ce que selon vous les concours de start-up aident
Oui, ça, on en est persuadé. C'est vrai que ce qui s'est passé sur le CES en début d'année a été assez exceptionnel, a même dépassé nos attentes. Quand on entend les plus grands analystes américains dire que le grand vainqueur du CES, c'est la France, c'est pas tel ou tel grand groupe d'électronique, c'est une grande satisfaction. Et c'est une grande satisfaction parce que ça s'est fait dans le cadre d'exemples très concrets de deux startups françaises peu connus avant le CES, qui ont gagné des prix, des awards, qui ont été mis en avant par tel ou tel média américain ou étranger. Donc on est persuadé que ce système de sélection des startups, de jury, si on les amène sur les bons marchés, si on les amène sur les bons événements, qu'on crée bien entendu le buzz, c'est tout l'objet aussi de la mission Business France dans le cadre de la plateforme d'attractivité que nous gérons pour le compte de la French Tech, que de démultiplier finalement ces initiatives pour faire sortir finalement du lot nos startups et qu'elles puissent plus rapidement conquérir le monde.
Merci Aurore, on revient dans un instant, suite de l'atelier avec la rédaction de Zeronet.com qui me rejoint dans ce studio. On va jeter un œil sur l'actualité chaude high-tech du moment. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. Avant de retrouver le crash test d'Antoine Cyr, direction la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou. Salut Eric.
Bonjour.
Le rédacteur en chef du pôle actu de Zeronet.com qui est là chaque samedi dans l'atelier, avec un coup d'œil bien sûr sur toute l'actualité high-tech de cette semaine. On va commencer par YouTube qui s'apprête à lancer une offre payante de son service YouTube de vidéo en fait, ouais. Mais cette fois-ci sans pub.
Oui, ça va débarquer dès le 28 octobre aux États-Unis, pas en France encore, hein, c'est que pour les États-Unis.
Il faudra peut-être résoudre des problèmes de droit pour les autres pays.
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça s'appelle YouTube Red. Et ça va donc être lancé dès la semaine prochaine. C'est en fait effectivement une version payante de YouTube à 10 dollars par mois. Donc c'est le prix de beaucoup de services de ce type.
Oui. Genre, les Spotify, les Deezer sont à 10 dollars par mois. Apple Music aussi.
Et ce que ça permet, c'est effectivement de couper toutes les publicités qui sont sur YouTube. Donc vous n'aurez plus de pré-roll, hein, de petites vidéos publicitaires avant ou après une vidéo.
C'est-à-dire qu'on commencera la vidéo tout de suite.
Commencera la vidéo tout de suite. Et mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres nouvelles fonctions en fait dans ce YouTube Red qui sont assez intéressantes et même peut-être plus intéressantes que cette absence de publicité qui est déjà détournée par de nombreux utilisateurs puisqu'ils utilisent tout simplement des bloqueurs de pub. En fait, YouTube Red, c'est aussi en fait ce que Google appelle une expérience ultime entre guillemets, ils sont toujours dans l'emphase de YouTube. Et effectivement, ça va vous permettre aussi de profiter mieux de vos vidéos. Par exemple, vous allez pouvoir télécharger pour les regarder offline, sans connexion, les vidéos que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous prenez le train ou vous prenez l'avion, vous pouvez télécharger les vidéos que vous avez envie de voir avant de prendre l'avion, puis les regarder sans avoir besoin d'être connecté à Internet.
Et ça, c'est une vraie nouveauté, parce que YouTube, on était condamné à avoir une connexion Internet. Exactement. Pour regarder des vidéos en streaming.
Exactement. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui suivent beaucoup YouTube, qui regardent beaucoup YouTube.
Parce que c'est vrai qu'il y a plein de contenus qu'on aimerait bien télécharger, regarder quand on n'a pas de connexion.
Voilà, qu'on n'a pas le temps forcément de regarder, qu'on a le temps de regarder dans l'avion, mais on peut pas parce qu'on n'a pas de connexion.
Alors on peut le faire, hein, là encore, on peut télécharger des vidéos YouTube,
tout à fait, de façon plus ou moins pas, parce que c'est pas vraiment autorisé par YouTube.
C'est pas forcément autorisé, voilà.
Il y a des applications qui permettent de le faire effectivement. Voilà. Mais là, voilà, c'est officiel, on pourra le faire. On pourra aussi, par exemple, sur un smartphone, utiliser une autre application tout en laissant la vidéo YouTube jouer. Donc, par exemple, c'est pratique si vous suivez une longue vidéo, une conférence, par exemple.
Vous voulez en même temps envoyer un mail ou envoyer un SMS.
Parce
qu'aujourd'hui, dès que vous sortez de l'appli, YouTube,
ça coupe. Et surtout, YouTube, faut savoir que c'est le premier service de musique au monde. Tout le monde écoute sa musique sur YouTube. Hein. Voilà, il la regarde et puis l'écoute. Mais c'est la plus grosse concentration de contenus musicaux et c'est aussi beaucoup pour ça que les gens vont sur YouTube. Et Google le sait bien et donc va lancer une version, on va dire, adaptée à la musique de YouTube, une autre application qui va s'appeler YouTube Music et avec laquelle on pourra télécharger aussi les clips qu'on veut, récupérer toutes les concerts, les clips, toutes ces petites vidéos musicales que l'on retrouve sur YouTube, les consulter offline les stocker sur son téléphone et voilà, pour avoir une vraie expérience YouTube de musique. Donc ça c'est aussi assez intéressant et je pense que c'est même peut-être ce qui est le plus intéressant dans cette offre. Surtout que
oui, voilà, après là c'est le feu d'artifice final, on va dire, il y a encore une offre, enfin en tout, il y a encore un service compris.
Voilà,
dans cette offre
il y a un autre service compris, c'est Google Play Music. Google Play Music, c'est le Spotify de Google qui n'a jamais vraiment décollé, il a toujours resté voilà, il a jamais vraiment vraiment décollé, mais il est compris dans ces $10 et tous les gens qui sont déjà abonnés à ce Google Play Music auront accès gratuitement sans frais supplémentaires à YouTube Red. Donc en fait, si vous avez un YouTube plus agréable à utiliser, plus une offre musicale à la Spotify avec des millions de titres à découvrir, à télécharger, etc. pour la somme de 10 euros. Donc c'est une offre assez intéressante et c'est sans doute par le biais de cette offre musicale qui pourra éventuellement faire son trou ce YouTube Red.
Oui, une offre séduisante qui, on le rappelle, ne sera pas disponible tout de suite en France.
Non, pas encore.
On enchaîne avec Facebook. Facebook qui s'apprête à lancer un moteur de recherche.
Ouais.
Assez impressionnant. Alors, il existe déjà le moteur de recherche sur Facebook.
Il existe déjà le moteur de recherche.
Pour trouver des personnes, etc.
Mais c'est vrai qu'il était pour l'instant très limité. Mais Facebook, on l'a déjà dit ici, hein, a envie de faire son petit internet à lui tout seul.
Oui.
Il aimerait bien être un web dans le web. Sur Facebook, on trouve de tout. On trouve désormais, bon, évidemment, les publications de vos amis, mais aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, beaucoup d'actualités maintenant, puisqu'on trouve énormément de médias, y compris 01net, évidemment, qui sont sur Facebook et qui publient leur annonce sur Facebook,
l'article
sur Facebook
de 01net qui cartonne, hein.
Oui, plus de 800 000 fans. Oui,
800 000 fans, vous vous rendez compte?
Ouais. Et effectivement, Facebook, c'est bien que il peut donner un petit coup de canif à Google en profitant de tous ces milliards de contenus qu'il a sur sa plateforme. Et donc c'est 2000 milliards, hein, plus précisément 2000 milliards de contenus qui, voilà, à partir d'aujourd'hui, vont être accessibles. Tous les contenus, en fait, finalement publics de Facebook vont être accessibles, là encore, juste aux États-Unis pour l'instant, pas encore en France, même si en fait il suffit d'une petite astuce, changer sa langue de Facebook pour pouvoir en profiter, vont être accessibles à tous. Vous allez pouvoir faire une recherche par exemple sur 01net par exemple et retrouver tout dans Facebook directement, tous les résultats qui correspondent à votre requête.
Voilà.
Alors on a essayé un petit peu, pour l'instant c'est pas aussi performant que Google, on va l'avouer, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que Facebook, voilà, cherche à rentrer sur ce secteur de la recherche qui pour l'instant est très, voilà, ultra dominé par Google. Il y a très peu de gens qui arrivent à essayer d'exister sur la recherche sur Internet.
À suivre donc. On enchaîne avec Instagram. Tiens, Instagram, oui, d'ailleurs, qui, comme par
propriété
hasard, appartient à Facebook. Instagram qui vient
de
lancer une nouvelle fonctionnalité.
Oui, alors c'est une nouvelle application même. Ça s'appelle Boomerang. Alors le nom est plutôt sympa. Ça sort sur iOS et Android. Et cette application vous permet de prendre de toutes petites vidéos. C'est-à-dire que vous shooter une photo avec votre smartphone et ça va vous prendre une rafale de photos et ça va la convertir en une vidéo de 1 seconde.
Voilà. Alors, donc il y a un côté un peu saccadé, sympa, peu dans l'air du temps, on va dire.
Exactement. C'est très.
Ça fait un peu time lapse, un peu.
Exactement. Et ça ressemble aussi un petit peu à ce que Apple a fait avec les live photos qu'il a lancé sur son iPhone 6S. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça décolle pas mal parce que tout ça, c'est voilà, faut que ce soit un truc que les jeunes s'approprient. On sait qu'Instagram, c'est désormais le réseau social préféré des jeunes, hein, même devant Snapchat et loin devant Facebook. Et voilà. Et Boomerang, peut-être une nouvelle fonction qui pourrait bien séduire les ados, puisqu'on peut faire évidemment très vite des selfies un peu marrants ou prendre des photos rigolotes de ses amis.
Voilà, donc c'est déjà disponible. Hein.
C'est déjà disponible sur iOS et Android. C'est une appli à part, Boomerang.
Voilà, qu'on télécharge sur son smartphone. On va enchaîner avec Popcorn Time. On en a parlé longuement ici sur BFM Business dans cet atelier numérique. C'est un service illégal qui concurrençait Netflix et qui permettait en fait...
Le gros concurrent de Netflix, voilà, selon les mots du patron de Netflix lui-même.
Voilà, et on pouvait sur Netflix regarder, enfin en tout cas sur Popcorn Time, regarder tous les films et toutes les séries qu'on voulait sans payer, parce que c'est ça la particularité de ce service
gratuit,
illégal. Hein.
Exactement, et il y a des petits soucis sur Popcorn Time en ce moment, alors ça fait beaucoup réagir les internautes, puisque Popcorn Time ne fonctionne plus. On peut plus y accéder. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des développeurs de Popcorn Time qui a tout simplement quitté le navire. Il y a apparemment des petits soucis dans cette équipe de développeurs de Popcorn Time, puisque certains voudraient mieux rentabiliser ces logiciels qui aujourd'hui est gratuit et ne fait pas d'argent. Les gens qui ont fait Popcorn Time, c'est du l'open source, ils n'ont pas voulu faire de l'argent avec. Mais voilà, il y a peut-être et maintenant qu'ils voient qu'ils ont du succès.
Les
sirènes des dollars apparaissent. Et apparemment, l'un des développeurs principaux du logiciel a quitté le navire, et donc a quitté le navire avec le nom de domaine de Popcorn Time, avec les comptes Facebook et Twitter de Popcorn Time. Donc tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et il y a un autre petit souci, c'est que la base de données des films qui servaient à Popcorn Time ne fonctionne plus non plus. Et on ne sait pas si c'est lié, c'est un peu mystérieux. Mais en tout cas, toujours est-il que Popcorn Time, pour l'instant, ne fonctionne plus.
Et là, on voit chez Popcorn Time.
Voilà. Quoi. Et on voit effectivement que ça intéresse beaucoup les internautes, puisqu'on voit énormément de recherches de notre côté Popcorn Time. Donc on voit quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ce logiciel.
C'est Netflix qui doit être content.
Netflix va être content sans doute. Et alors, en tout cas, ce qu'on a su aussi, c'est que Popcorn Time s'est fait beaucoup ennuyer par les majors du cinéma. Hein. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est possible qu'effectivement, elles aient aussi peut-être contribué à faire tomber ce site. À un moment
mais
ou à un autre.
C'est étonnant parce qu'on l'aurait su, non?
Des fois, vous savez, il y a des choses qui se passent qui sont assez étonnantes. Il y a par exemple, des attaques des DOS qui ont été faites sur certains services. On n'a pas trop su d'où elles venaient, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
D'accord.
Mais effectivement, c'est surprenant.
Et on va terminer par un autre service qui s'apprête à arriver en France, qui cartonne aux États-Unis. Il s'agit de Roku.
Ouais. Alors,
et toujours
Roku, dans la vidéo.
C'est de la télé sur le web.
Alors pour le coup, c'est légal. C'est de la télé sur le web via une petite box en fait que vous installez, un peu comme l'Apple TV. Ça ressemble en fait à l'Apple TV. Et Roku, ce qui est intéressant de dire, c'est que ça débarque en France, mais que ce sont les champions du streaming aux États-Unis. Ils ont tout simplement beaucoup plus de matériel installé que Apple ou que Amazon aujourd'hui. Et effectivement, c'est intéressant de voir ce nouvel acteur arriver. Alors, qu'est-ce que ça fait? En gros, c'est un peu comme une Apple TV, c'est-à-dire que vous pouvez, sur cette box, il y aura plusieurs modèles, hein, mais sur la plupart de ces box, installer des applications, aller voir Netflix, aller voir YouTube, aller voir Dailymotion. Mm-hmm. Ils ont plein de partenaires comme ça.
Et donc, on a une télécommande, en fait. C'est un peu la télé old school, c'est-à-dire qu'on est avec sa télécommande.
Exactement.
Il n'y a pas de smartphone, là.
Non, il n'y a pas de smartphone, mais c'est pas comme un Chromecast. En fait, on va dire qu'il y a il y a plus d'intelligence dedans que dans un Chromecast, ça donne accès en fait à des contenus via le web et sans passer par la box, sans passer par notre box. Donc effectivement, tous les gens qui utilisent une box aujourd'hui vont peut-être se dire à quoi ça va bien me servir. C'est un peu le défi de cette entreprise aujourd'hui, c'est de montrer que son interface est plus sympa, qu'il y a plus de fonctions que sur la box de votre fournisseur d'accès. Et ça, c'est pas facile de le faire, d'y arriver en France en tout cas.
Oui, d'autant que Apple va bientôt sortir son Apple TV.
Exactement, elle sera très très bientôt.
Voilà, qui va être en concurrence frontale avec.
Exactement, elle sera un peu plus chère que les matériels de Roku, mais ce sera aussi on connaît Apple, Roku on les connaît pas encore trop, donc il va falloir qu'ils fassent leur nom.
Voilà, étonnant, hein, ce service Roku qui arrive en France, donc avec trois modèles de box différentes. Hein, ça commence à 50€ et les prix
s'envolent
avec plus de stockage, etc. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Éric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du pôle actu de ZeroNet.com chaque samedi dans l'atelier numérique sur BFM Business. Vous restez avec nous. On a encore quelques minutes à passer ensemble et ce sera avec Antoine Cyr pour le crash test, avec comme point de départ pour ce crash test le mot lumière. Lumière, évidemment, liée au cinéma. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique, c'est sur BFM Business, exclusivement sur BFM Business. Chaque samedi 16h-18h, vos 2 heures dédiées aux nouvelles techno et à l'économie numérique. Dans un instant, Antoine Cyr, avec comme point de départ, Antoine, pour ce crash test,
lumière.
Lumière qui a trait au cinéma.
Vous allez voir, il a trait à beaucoup de choses.
À beaucoup de choses, pas qu'au cinéma.
Bah non.
Dans ce contexte-là.
Bah oui.
On en parle dans quelques instants, auparavant, on a Guillaume de Groisse qui est avec nous au téléphone. Bonjour Guillaume.
Bonjour cher François.
Directeur marketing de l'atelier, bien sûr. Alors Guillaume, cette semaine, vous vouliez nous parler de la guerre des réseaux d'entreprise, c'est ça ?
Eh oui, dans cette période pré-Star Wars, guerre des étoiles, moi je vous parle de la guerre des réseaux sociaux en entreprise. Alors, les réseaux sociaux en entreprise, c'est un sujet qui était tombé, on va dire pas dans l'oubli, mais en désuétude, parce que finalement Microsoft occupe la première place du classement depuis depuis quelques années, avec sa suite SharePoint que tout le monde connaît, depuis aussi le rachat de Yammer en 2012. Il s'est fait vraiment cette première place un peu sur le dos d'IBM, j'ai envie de dire, qui résiste vaillamment, mais qui quand même est un peu en perte de vitesse.
D'accord.
Et il y a quelques années, on a deux petits Français qui sont venus s'installer tranquillement sur ce créneau des réseaux sociaux d'entreprise. Alors il y a d'abord Jalios, qui a été créé en 2001, au départ plutôt un CMS, mais qui ensuite est passé très très vite sur ces outils de collaboration, de messagerie instantanée, et puis surtout Blue Kiwi, racheté par Atos en 2012, qui lui a vraiment redonné de la force. Et finalement, ces deux acteurs, au-delà d'être français, cocorico, sont venus donner un peu une vague de fraîcheur dans cet univers des réseaux sociaux d'entreprise, en apportant des fonctionnalités rénovées, plus jeunes, avec une UX plus actuelle. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est que nos amis les GAFA, depuis leur Californie, viennent à leur tour venir jouer les troubles faits dans cet univers des réseaux sociaux d'entreprise. Alors, le premier à avoir lancé des tests sur ce sujet au tout début de cette année 2015, c'était Facebook, qui a lancé une plateforme en bêta, Facebook at Work. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un flop ? Non, on va pas aller jusque-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la crédibilité de Facebook dans le monde de l'entreprise, elle est un petit peu discutable. Ça reste un réseau social qui est quand même plutôt à dominante privée. Et puis, les entreprises aiment bien quand même garder leurs données, les données de leurs utilisateurs, etc. Oui. chez elles. Et on peut dire que Facebook nous a pas pour l'instant montré qu'il était tout à fait capable de répondre à ces problématiques. Par contre, il y en a un qui est en train de jouer un très très gros coup sur ce domaine-là, c'est LinkedIn, qui est lui aussi en train de se lancer sur ses fonctionnalités de communication, de partage, de collaboration. Et LinkedIn est beaucoup 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 plus crédible que Facebook. Un, parce qu'en fait, on l'utilise déjà quasiment tous, si ce n'est tous, pour nos contacts professionnels. Et puis parce que LinkedIn est justement déjà un pied dans l'entreprise et a cette crédibilité de favoriser les échanges. On a l'impression finalement d'une utilisation facile, pas de nouvelles fiches de contacts à créer, les contacts sont déjà là, on a déjà nos groupes avec nos collaborateurs, etc., etc. Donc finalement, l'avenir des réseaux sociaux d'entreprise, ce sera peut-être un réseau social externe, et peut-être que demain, la frontière entre réseau social d'entreprise et réseau social tout court sera complètement supprimée par nos amis de LinkedIn.
Merci beaucoup Guillaume de Groisse, donc directeur marketing de l'atelier. Mon cher Antoine, il est temps maintenant d'enchaîner avec la lumière. Les lumières, c'est le point de départ de ce crash test.
Oui, parce qu'il y avait la semaine dernière le Festival Lumière, qui est un festival à Lyon, qu'il ne faut pas confondre avec la soirée ou la nuit des Lumières, ça n'a rien à voir, parce que ça concerne les frères Lumière. Donc le Festival Lumière, c'est un festival, évidemment, qui a une forte vie numérique, parce que c'est un festival qui a été conçu il y a 8 ans, qui en est à sa 8e édition. Alors il est consacré au cinéma classique, mais évidemment, le cinéma classique aujourd'hui, il n'est pas concevable sans une forte présence numérique, avec un site qui est festivallumière.org, et puis avec une radio du festival qu'on peut retrouver sur le site. Donc pour et j'ajoute que pour les gens qui ont raté le Festival Lumière, mais qui peuvent prendre un autre outil moderne qui est le TGV, ils ont la possibilité de retrouver énormément d'éléments de la programmation du Festival Lumière à l'Institut Lumière.
D'accord.
Entre maintenant et la mi-novembre.
Ah, donc, c'est bien. Donc c'est voilà. Un peu un replay.
Donc
quoi,
c'est
en
une sorte de replay. Donc tout ça c'est formidable. Au Festival Lumière, il y avait Martin Scorsese, il y avait Jean-Paul Belmondo, il y avait Sophia Loren, il y avait des acteurs plus jeunes aussi comme Raphaël Personnaz ou Vincent Lindon qui étaient venus se pencher sur le cas des anciens. Et donc évidemment, moi quand j'entends toute la journée un mot, qu'est-ce que je fais? Je tapote, je googlise, etc. Et donc effectivement. La lumière, au départ, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Et je me suis amusé à trouver les définitions qu'on trouve sur Internet de la lumière, parce que c'est évidemment les définitions que connaissent les physiciens. Mais nous, qui ne sommes pas physiciens, nous ne les pensons pas comme ça. Et donc, c'est intéressant de les lire. Par exemple, on lit que la lumière est un phénomène physique, un transport d'énergie sans transport de matière. C'est joli.
Un transport d'énergie sans transport de matière.
Voilà. Dans son acception générale de lumière visible, elle est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par la vision humaine. C'est joli aussi, je trouve que voilà, la physique confine à la poésie. Il ne faut pas oublier non plus que le mouvement des Lumières est un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec Spinoza, Locke, Newton, etc. avant de se développer en France au XVIIIe siècle. Mais là aussi, il y a un rapport entre ces Lumières-là et la science physique puisqu'on nous rappelle que le mouvement des Lumières a été en grande partie un prolongement des découvertes de Copernic au XVIe siècle qui était peu diffusé de son vivant, mais donc qui a déclenché cette espèce de quête d'axiome, de certitude éprouvée, et qui s'est poursuivie ensuite par le mouvement du cartésianisme. Donc, quand même, vraiment, on peut dire qu'il y a un rapport entre la lumière, le mouvement des Lumières, le siècle des Lumières et la science. Donc, le Festival Lumière, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un festival qui permet de retrouver 150 films, du plus populaire au plus pointu, qui ont marqué l'histoire du cinéma, et donc des personnalités, et là, Lumière devient un hashtag, parce qu'évidemment, les gens tweetent, et donc ils tweetent Lumière, ils tweetent Lumière 2015. Alors, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de succès au Festival Lumière de cette année, c'est Mads Mikkelsen, vous savez, Mads Mikkelsen, qui joue notamment dans la série Hannibal Lecter, hein, il joue ce personnage évidemment épouvantable.
Oui.
Et puis il joue aussi un méchant chez James Bond. Voilà, donc il est devenu une sorte de méchant d'anthologie. Et alors c'est assez amusant parce qu'il est très sympa en fait.
Donc, souvent c'est ça.
Oui.
Hein.
Et puis alors il fait pas semblant. Je veux dire, il arrive pas en disant, je suis pas sympa. Donc je dois avoir l'air pas sympa. Non, il est très sympa. Quand on lui dit qu'est-ce qui vous manque pour être heureux, il répond ben là tout de suite une bonne bière. Enfin bon, il est vraiment sympa.
Cool.
Voilà. Autre exemple de hashtag lumière. Et si la halle Tony Garnier était le plus beau cinéma du monde, alors ça c'est parce que il y a certaines manifestations du Festival Lumière qui se déroulent dans cette espèce d'énorme pavillon, un peu façon pavillon de la Villette qu'il y a à Lyon, qui s'appelle la halle Tony Garnier. Autre exemple de hashtag, des citations qui sont prises pendant que des intervenants parlent au Festival Lumière, donc toujours avec le hashtag Lumière 2015. Par exemple, Alexandre Desplat, qui est aujourd'hui le plus grand compositeur français de musique de film et un des plus grands du monde, en parlant d'un film, dit « J'ai cherché une ritournelle qui pouvait capter l'âme des trois personnages du film ». C'est joli. Voilà. Et puis alors il y a aussi des gens qui tweetent le hashtag pour dire qui ils ont vu. Par exemple, il y a des gens qui à la radio du village, dont s'occupait notamment votre serviteur, ont dit qu'ils ont vu Vincent Lacoste, Radu Mihaileanu, l'auteur du concert, Dominique Besnéard et Françoise Fabian qui venaient pour la fameuse série 10% qui est en train de marcher très bien.
C'est pas sur France 2, hein, c'est ça, hein, 10%.
Tout à fait. Si le Festival Lumière s'appelle ainsi, c'est bien sûr parce qu'il est organisé par l'Institut Lumière, basé dans l'ancienne usine où les frères Auguste et Louis Lumière inventèrent le cinématographe. En 1894...
Ils étaient originaires de la Maciota, non, je crois, non?
Non, pas du tout. Ils étaient originaires de Lyon. Mais en revanche, ce qu'ils ont fait, c'est que l'un de leurs premiers films était l'entrée d'un train en gare de La Ciotat.
D'accord.
Et alors, d'ailleurs, ça entraîne plein de confusion, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est à Lyon qu'a été tournée l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Ben non.
Non, non, c'est pas possible.
Non. Là, à l'époque, quand même, les studios de cinéma ne permettaient pas
de faire des trucages,
pareils. Voilà. Donc, Antoine Lumière, qui était le père d'Auguste et Louis Lumière, les créateurs du cinéma, dont on a d'ailleurs fêté l'œuvre cette année au Grand Palais, hein, parce qu'ils avaient créé la première projection de cinéma ayant eu lieu en 1895, on a pu avoir les 120 ans du cinéma au Grand Palais cette année. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le père des frères Lumière avait vu une utilisation déjà d'un appareil de cinéma qui s'appelait le kinétoscope, mais qui ne pouvait être vu que par une seule personne. Et puis il avait vu des films qui étaient projetés, mais c'était des films d'animation et c'était pas des films utilisant une pellicule,
images,
une pellicule photographique sensible. Donc du coup, ce qu'ont fait les Lumières, c'est qu'ils ont fusionné ces deux éléments et ils ont réalisé une première projection en 1895 du premier film qui était la sortie des ouvriers de l'usine Lumière.
Eh bien voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous êtes pas loin de Lyon ou si vous avez envie de passer un week-end dédié au cinéma, vous pouvez le faire, c'est jusqu'à la fin d'année, c'est ça?
Jusqu'à la mi-novembre, mais vous pouvez déjà aller sur le site de l'Institut Lumière ou le site du Festival Lumière et vous allez bien vous imprégner déjà.
Merci Antoine. Antoine Cyr, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier numérique pour le crash test, entre autres. Cet atelier est terminé, merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera bien sûr samedi prochain dès 16h. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end à tous.